18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir toujours d'être ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, vous le savez, ce que je vous propose aujourd'hui dans Les Informés, une émission complètement spéciale parce qu'on va s'adresser aux quartiers populaires. Nous allons nous intéresser évidemment à toutes les problématiques qui entourent les quartiers populaires et la République. Hein, se sent-il en marge de notre société? C'est des questions qui se posent de plus en plus, notamment, et y compris aujourd'hui, à l'heure où, effectivement, ils se sentent abandonnés par la République. On posera aussi les questions, y compris, vous le savez, sur le volet intégration, violence, ce rapport police aussi, notamment, entre les quartiers populaires et les habitants, puisque, vous le savez, vous avez évidemment suivi l'actualité, et on a eu l'occasion de le traiter ici suffisamment dans Les Informés. Alors, vous le savez, toute une série d'invités que vous connaissez des voix, qui vous sont familières, mais également aussi, vous le savez, par téléphone, nous serons avec des spécialistes qui viendront eux aussi nous parler, nous apporter leur regard sur les quartiers et notre République. Et bien voilà, ces émissions spéciales que je vous propose à la fois sur deux journées, à la fois aujourd'hui, ce soir, et puis demain aussi, donc épisode 1, épisode 2, on a décidé de mettre en lumière, si vous voulez, à la fois les quartiers populaires de France, et nous allons prendre le temps nécessaire pour en parler. Voilà, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, hein, Les Informés, en plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Avant de présenter le plateau, parce qu'il y a un joli plateau, et puis on sera dans une poignée de minutes avec notre député donc, de Renaissance qui sera avec nous, le député de la République, Madame Nadia Hay. Je présente un ancien élu qui est consultant aujourd'hui, Ménad Ouchenir. Bonjour.
Bonjour Adil.
Vous connaissez, vous, la banlieue, notamment.
Oui, pour y avoir grandi.
Au combien ? Absolument.
Absolument.
Jean-Pierre Colombiès, alors lui, il connaît très bien les quartiers de Marseille, il a grandi à Marseille, il est marseillais, ancien commandant de la police, aujourd'hui il est le porte-parole des policiers indépendants. Bonsoir Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir Adil, bonsoir à tout le monde.
J'ai presque envie de dire, monsieur, comment vas-tu?
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs, et oui, des quartiers où aussi, j'ai des quartiers nord de Marseille, où j'ai grandi et où je vais encore de temps à autre, et donc je connais assez bien les problématiques.
Une élue de Creil, elle est avec nous. Elle s'appelle Jessica Elonguer. Elle est sur le terrain. Elle est élue. Elle aussi, elle viendra nous apporter son regard. Bonjour, bonsoir, Jessica Elonguer.
Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien.
Un autre spécialiste des quartiers populaires, on l'a longtemps entendu évidemment parler des quartiers populaires, notamment sur le volet économique, et il les connaît aussi beaucoup, et c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à l'inviter. C'est Gamal Abina. Bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation.
Allez, pour commencer cette émission spéciale quartier pour les quartiers populaires, vous savez, au téléphone avec nous, c'est l'ancienne ministre de la ville et elle est députée donc de la République, les députés du côté de Trappes. Elle s'appelle Madame Nadia Hay. Bonsoir Madame Nadia Hay.
Bonsoir Adil Farkan, bonsoir à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous Madame la députée. Justement, vous, ancienne ministre de la ville, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les quartiers populaires? On dit que les quartiers populaires, notamment, ne sont pas intéressés dans le cadre de cette réforme des retraites, qu'ils voient ça, évidemment, de loin, qu'ils observent. En gros, c'est des observateurs. Vous répondez quoi aujourd'hui dans le cadre de cette émission spéciale consacrée aux quartiers?
Alors, les quartiers politiques de la ville n'ont jamais été que des observateurs. Bien au contraire, ce sont souvent des politiques qui sont engagées. Ils sont engagés à travers plusieurs missions, principalement associatives, mais aussi dans l'entrepreneuriat, dans en fait tout ce qui fait aujourd'hui le quotidien des territoires. Et donc, je suis pas certaine que ça soit uniquement des observateurs. Mon regard sur les quartiers n'a pas changé. Je les vois toujours et je les verrai toujours comme des territoires dans lesquels il y a certes beaucoup de difficultés sur lesquelles il faut qu'on apporte des réponses. Et depuis quelques années, nous apportons des réponses, mais aussi comme des territoires de solutions où la solution peut venir en tout cas des habitants.
Vous savez, Emmanuel Macron, le chef de l'État, disait il y a encore peu de temps que l'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Très honnêtement, je vous pose vraiment sincèrement la question.
Ah oui, moi je pense très sincèrement que nos quartiers sont une chance pour la République. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a plus de... Dans les territoires quartiers politiques de la ville, c'est 1500 quartiers, un peu moins de 860 communes, qui regroupent un petit peu moins de 6 millions d'habitants, dont 2 500 000 jeunes. Donc il y a une jeunesse aujourd'hui dans nos quartiers qui est fortement représentée. Et donc, si on ne voit pas notre jeunesse comme une chance, moi je ne vois pas qu'est-ce qui peut constituer une chance pour notre pays. Donc il y a du potentiel énorme. Et quand, enfin, moi, j'en viens, je viens de Trappes, je suis une trappiste, j'étais ministre de la ville. J'ai vu tous les talents qu'il y a, qu'il y avait, qu'il y a encore, et qui ne demandent justement qu'à pouvoir s'exprimer. Et donc, pour cela, il faut qu'on leur donne des outils et qu'on leur permette justement d'avoir ce parcours de réussite.
Alors, justement, madame la députée, vous nous avez rappelé... Vous nous avez rappelé, pardonnez-moi de vous interrompre, vous nous avez rappelé vous-même, vous étiez ancienne ministre de la ville aujourd'hui. Vous savez ce que disent les habitants des quartiers populaires notamment, c'est qu'ils ont le sentiment aujourd'hui d'être atteints, abandonnés, de n'être pas suffisamment écoutés justement par l'exécutif, par le gouvernement. Vous, député des Yvelines, justement de la 7e circonscription des Yvelines, vous êtes de Renaissance aujourd'hui, donc vous êtes une, vous représentez aussi le gouvernement. Qu'est-ce que vous leur répondez à celles et ceux qui disent ça justement?
En tout cas, vous savez, moi j'ai été 2 ans à la tête du ministère de la ville et on n'a pas chômé en termes de dispositifs, de moyens mis en œuvre dans les quartiers. Il y avait une demande de la part des élus de flécher plus d'un milliard du plan de relance pour refaire les écoles, pour refaire la rénovation énergétique du logement social, plus d'éducation, plus de sécurité dans nos quartiers. Un peu moins de 3 milliards d'euros qui ont été fléchés dans le cadre du plan de relance pour ces territoires. C'est aussi des programmes en matière éducative. Donc, moi, je reçois encore aujourd'hui députés des programmes qui sont mis en place par les lycées, par les collèges, d'apprentissage, de découverte du monde, de programmes philosophiques qui sont faits à travers les cités éducatives que nous avons mis aussi en œuvre. Et puis, il y a tous ceux qu'on est en train de déployer sur le développement économique, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, tout ce que fait la BPI pour développer justement tous nos entrepreneurs et les accompagner. Donc, il y a aujourd'hui une dynamique qui est installée dans nos quartiers. Mais c'est vrai que on n'a pas encore ce ressenti nécessaire aujourd'hui pour prendre aussi la mesure de ce qui est fait. Et c'est normal parce que les attentes sont immenses, parce que les besoins aussi sont immenses. Et on a, je pense, pris trop ce sujet à l'envers ces dernières décennies. Et donc, il nous faudra, j'espère, le moins de temps possible, mais encore un petit peu de temps pour inverser cette vapeur et donner peut-être le sentiment aux habitants que l'État est là et la République ne faillit pas dans ses responsabilités.
Qu'est-ce que vous dites justement aux habitants des quartiers populaires aujourd'hui? Vous savez, on parle de plus en plus de difficultés à agir dans notre quotidien. On parle d'inflation, on parle de la vie chère, on parle de la prix des hausses. Vous savez que beaucoup des habitants des quartiers populaires ont beaucoup de, évidemment, sont fragilisés et ils rencontrent une énorme difficulté, évidemment, à s'en sortir. Est-ce qu'il y a des possibilités des solutions et des alternatives en dehors des associations aujourd'hui qui essayent, évidemment, avec leur peu de moyens, d'agir?
Alors d'abord, toutes les mesures du pouvoir d'achat que nous avons votées en loi de finances et en loi de finances rectificative pour 2022 sont à l'intention de ces quartiers, de ces publics, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que la pauvreté, elle est aussi dans le monde rural. Mais nous avons agi, les premiers chèques énergie ont été distribués. Beaucoup encore de nos concitoyens ne connaissent pas tous les outils et les subventions qui sont mis à leur disposition. Et c'est pourquoi, dans le cadre des missions confiées aux Maisons France Service, eh bien maintenant, il y a des guichets d'information pour pouvoir accompagner nos concitoyens à solliciter ces aides. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la meilleure façon de se sortir de la pauvreté, c'est l'emploi. C'est de permettre justement à nos concitoyens de s'en sortir par l'emploi, par leurs revenus autonomes et indépendants de l'ensemble des aides sociales qu'on peut mettre en place. Et là aussi, on voit un taux de chômage qui diminue. Dans les quartiers, il diminue également, donc c'est assez encourageant. Ça veut dire que la rencontre entre l'offre et la demande, elle est de plus en plus facilitée, notamment grâce au dispositif des cités de l'emploi que nous avons mis en place et du travail mené entre le ministère du Travail et le ministère de la Ville qui travaille vraiment main dans la main pour ce sujet.
Bon, je sais.
Donc voilà, je veux juste vous dire que la meilleure façon de s'en sortir aujourd'hui dans ces quartiers, c'est de permettre à chacun de réussir pleinement son parcours professionnel à travers l'apprentissage, à travers l'emploi, à travers l'entrepreneuriat. Et là, il y a une multitude d'aides et d'accompagnement pour ces parcours. Et le taux de chômage dans ces quartiers nous montre que nous sommes dans la bonne voie. Même si, effectivement, il nous reste encore beaucoup à faire.
Je sais, Madame la députée, que vous êtes attendue. Donc, je ne peux pas vous retenir parce que les débattants auraient voulu échanger avec vous. Mais je sais que je dois vous libérer, hein, me semble-t-il.
Oui, parce qu'on a le débat des retraites qui va commencer dans quelques minutes.
Bah, je vous libère.
Et là aussi, juste un dernier mot, si je peux.
Bien sûr, allez-y, je vous permets, allez-y.
Sur les retraites, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses qui sont véhiculées, beaucoup d'informations, de fausses informations notamment, qui créent un espèce de brouillard où on n'y voit plus rien sur cette réforme. Alors, en effet, il y a un effort de solidarité qui est demandé à l'ensemble de nos concitoyens qui travaillent pour permettre à un système de mieux se financer, mais aussi parce que les quartiers populaires ont beaucoup été cités, notamment par nos collègues de la gauche et de l'extrême gauche, pour accuser peut-être la majorité de ne pas être soucieux.
Ah ben on a des élus de l'extrême gauche justement à parler.
Ah ben voilà. Oui oui. Et donc justement vous dire que là-dessus c'est totalement faux, parce que ceux qui sont soumis sujet en tout cas à la pénibilité, à l'usure professionnelle, les carrières des femmes qui sont hachées parce que on s'est arrêté pour éduquer ses enfants, ou alors par une séparation, à cause d'une séparation, on a dû se remettre au travail peut-être un peu plus tard que la moyenne, et en faisant un travail peu qualifié, des heures de ménage. Eh bien, cette réforme des retraites, elle permet de corriger des inégalités qui les concernent directement. Et des avancées sociales qui vont être financées par cet effort de repousser cet âge légal à la retraite. Donc là aussi, je crois qu'on peut en discuter pendant très longtemps. Moi, je suis à disposition pour le faire. Parce que je trouve que c'est un faux procès que l'on fait aujourd'hui à cette réforme, sous couvert d'un report de l'âge légal. Donc voilà.
Et je peux d'ores et déjà l'annoncer.
Les quartiers populaires sont au centre de toutes les discussions et les sujets et les mesures que nous prenons, parce qu'ils constituent pour beaucoup d'entre eux cette population dite.
Et Madame Ladiaye, on peut l'annoncer, émission spéciale consacrée dans le cadre de cette réforme des retraites. Mardi prochain à 18h avec vous justement en direct.
Très bien. Bah
écoutez, avec les auditeurs.
Ce serait un plaisir de répondre à toutes les questions sans tabou et avec une franchise que vous connaissez.
Absolument. Merci infiniment Madame Ladiaye. Je vous libère. Vous avez été ministre déléguée donc à la ville, ministre de la ville donc et à la politique de la ville. Vous êtes la députée de la 7e circonscription des Yvelines. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission spéciale Quartier populaire et République. Merci et je vous libère.
Merci à vous et à vous toutes et tous, et à très vite.
À très vite. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes justement. Je sais que nos débatteurs là, nos invités n'ont qu'une envie, c'est de répondre et d'avancer sur cette question. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les Informés, je vous le disais, épisode 1, nous allons en parler, émission spéciale consacrée aux quartiers populaires et notre chère République, justement, avec toutes les questions qui s'imposent et qui se posent. Violence, intégration, éducation, réussite, solution, problème. Nous prendrons le temps d'en parler avec nos invités, Mena Adouchenir, qui est avec nous, un ancien élu, justement, du 93. Hein.
De Rosny-sous-Bois.
Absolument. Bien. Donc, il connaît le terrain. Un ancien commandant de la police qui a traité justement ces questions des quartiers populaires. Il a grandi, il a vécu justement dans les quartiers nord de Marseille. Bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Jean-Pierre Colombiès, qui est aujourd'hui le porte-parole des policiers indépendants. Une élue de Creil, elle est avec nous, elle s'appelle Jessica Elonguer. Bonsoir.
Bonsoir, tout le monde.
Et enfin, bonsoir aussi à Gamal Abinar, qui connaît évidemment le sujet mieux que quiconque. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour le sujet.
Je voudrais vous laisser répondre. J'ai vu Jean-Pierre Colombiès, notre commandant de la police, bouillir dans tous les sens du terme, justement. Et alors, je vais lui donner la parole. Qu'est-ce qui vous fait réagir quand la députée brosse un constat sur la situation dans les quartiers?
Je boue parce que j'entends les mêmes éléments de langage depuis des années.
On a l'impression que Renaissance, Aix et les REM a pris le pouvoir il y a 6 mois, qui sont aux affaires depuis 6 mois, alors qu'ils ont quand même un chef de file, un maître philosophe penseur, une lumière de la grande connaissance moderne, leur président, notre président de la République, qui est quand même aux manettes depuis presque 10 ans, si on ajoute le fait qu'il ait été secrétaire général de l'Élysée, ministre du budget, président de la République, et aujourd'hui nouveau mandat. Bon, on dirait qu'il découvre tout à coup qu'il y a effectivement des problématiques de quartier, de cité, comme on dit. Et lorsque vous m'avez posé la question, Adil, vous avez présenté les sujets en disant « Est-ce que nous avons un problème avec les quartiers ?» Oui. Je dis non, mais les quartiers ont un problème. Et effectivement, les quartiers ont le problème significatif d'avoir été lâchés par les pouvoirs publics. Alors lâchés de plusieurs manières, par les transports.
Vous
disiez que j'avais une.
Vous étiez avec les. Oui, vous
j'allais
dit,
pas l'interrompre,
c'est vrai.
J'allais pas l'interrompre. Mais j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, effectivement.
Je sais, vous avez
une caractéristique jusqu'à peu qui commence un temps soit peu à s'améliorer, mais vraiment à la marge, hein, qui n'ont jamais eu de transport, pour ainsi dire. Vous aviez une ligne de bus qui passait par là par hasard, enfin pas par hasard, mais une à deux lignes de bus qui passaient
pas
dans
le.
Quasiment pas, ou de manière anecdotique. Donc il y avait déjà un éloignement des quartiers par rapport au centre-ville et au centre dit d'activité professionnelle. Je pense que c'est du désintérêt total.
Oui,
vous savez, les élus de Marseille, les maires, je ne suis pas certain que l'ex-maire de Marseille, Gaudin, soit souvent allé dans les quartiers nord de Marseille, le 15e, j'en suis pas vraiment convaincu. Ça les intéresse pas plus que ça, ils sont élus avec moins de 20% des inscrits, donc tout va bien dans le meilleur des mondes,
exactement.
Dès lors qu'ils occupent les postes qu'il faut. Les quartiers ont un problème, effectivement, par rapport à cela, par rapport au fait qu'il n'y ait plus d'interlocuteurs dits de l'État, je pense notamment à la police, c'est un sujet que je connais bien évidemment éminemment bien, puisqu'on a retiré ce contact sécuritaire, mais pas d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue lien entre la population et ce qui est supposé la protéger. Et ça, c'est fondamental.
Quand on parle de la police dans les quartiers populaires, c'est quoi? C'est un problème?
Bien sûr que c'est un problème qu'il n'y ait plus de police. Mais parce que moi, je suis très attaché...
Donc un vrai problème.
Oui, c'est un problème.
D'accord.
Je suis très attaché à ce qu'on appelle la police de proximité, qui doit répondre à des impératifs de lien, d'échange, de contact, de dialogue, et pas simplement avec une problématique répressive. Et aujourd'hui, on a tellement laissé courir la situation, tellement laissé pourrir la situation, c'est le mot le plus approprié, qu'aujourd'hui, les habitants, dans leur grande majorité de ces quartiers, sont soumis à une forme de dictature des.
On en parlera, parce que dans les quartiers populaires, quand on sonde, évidemment, quand on interroge les uns, ils parlent souvent, vous savez quoi, de contrôle abusif, de violence policière. Ouais. Justement, c'est des mots, les deux mots.
Ouais.
Les deux mots. Je me suis amusé à.
Je peux vous expliquer pourquoi, très cher.
Eh ben, vous allez nous dire pourquoi, les raisons pour lesquelles. Je veux juste qu'on fasse un tour de table.
Oui, y a pas de problème.
À la réaction de madame la députée Nadia. Mais là, d'où chenir?
Alors, effectivement, la députée a exercé que 2 ans, si j'ose dire, au sein du gouvernement. Moi, ce que j'aimerais dire...
Elle était députée aussi.
Elle est toujours députée.
C'est son deuxième mandat.
Et quand on regarde ces dernières années, effectivement, alors, on peut se le dire aussi, c'est pas la génération politique d'Emmanuel Macron qui a amené à ce que sont les quartiers aujourd'hui. Et juste un point peut-être de... Parce qu'on peut dire de définition, mais moi je pense quand on parle des quartiers, on réduit souvent ça aux zones urbaines, périurbaines, aux grands pôles. Pensons à la ruralité. Il y a des zones rurales où vous avez des quartiers pour lesquels c'est double peine, hein, qui ont les inconvénients des quartiers qu'on a nous ici en zone, en grande couronne, etc. Mais aussi les inconvénients liés aux espaces ruraux, qui ont encore plus d'isolement, une certaine insécurité aussi croissante. Donc je pense aussi à nos auditeurs du monde rural. Après,
exact.
Moi je vais être, Adil, je fais un peu de cynisme.
Mais on est là pour ça. Il faut qu'on prenne le temps d'en parler.
Cette spéciale, pour y avoir grandi en plus, donc à Reny-sous-Bois naturellement, mais aussi puisque mon père avait un restaurant à Colombes. On était très souvent là-bas, donc dans le 92. Hein, c'est pas parce que c'est le 92 qu'il n'y a pas de quartier en difficulté,
oui.
Surtout
le nord,
à Colombes.
Mais il n'y a pas qu'à Colombes.
Et pour avoir grandi également les premières années de ma vie dans un quartier de Paris qui s'appelle Stalingrad, donc je peux vous dire que j'ai vu une certaine diversité. Les années 90 notamment. Pour ceux qui... Enfin, Jean-Pierre pourra en parler même beaucoup mieux que moi. Ce que je veux dire par là, c'est que le quartier, il s'agit aussi, au-delà... il y a beaucoup de victimisation, je pense qu'il y en a aussi qui s'en sont fait un front de commerce. Pour exister, moi je vais vous dire en tant qu'élu, ce que je me suis acharné, ce que je continue à faire, c'est de leur dire aux uns et aux autres d'aller voter. C'est bête, hein? Mais quand on regarde, moi, à chaque fois, au lendemain, élection,
qu'elle soit
locale, nationale,
allez voter,
on prend
et Gamal Abina,
de vote, on
évidemment,
prend les
il nous expliquera la raison pour laquelle,
taux de participation
lorsque vous dites aux quartiers populaires, il y a un divorce avec la chose politique.
Si vous n'existez pas politiquement,
comment
vous
pouvez-vous
pas
dire,
dans les
on a une élue,
voilà,
comment pouvez-vous dire aux habitants des quartiers populaires, et là je vous interromps, mon cher Ménado Chinir, je suis d'accord avec vous, et je n'ai que de cesse de le dire à l'antenne, justement, que l'arme fatale, c'est le vote.
Absolument.
Je le dis tout le temps en permanence.
Je
mais
confirme.
En même temps, d'accord, je comprends les habitants et ce désarroi de se dire, vous savez quoi ? La chose politique, on n'y croit plus. Il y a un divorce avec la politique. Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été baladés.
Alors,
et on a des élus. Et on a un spécialiste. Et on va en parler.
Jessica, on pourra en parler également davantage. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un peu d'hypocrisie là-dedans. Moi, je le vois au moment des élections.
On les a découragés, les habitants.
Conneries. Pardon, on a dit de vous le dire comme ça, mais bon. c'est des bêtises. Je vois au moment des élections, souvent, les municipales, parce qu'il y a les élections locales et nationales. Là aussi, faut quand même distinguer les enjeux. Mais sur du local, ben, vous avez des gens, 6 mois avant le scrutin, 3 mois avant le scrutin, qui vont sortir comme ça de leur boîte et venir demander des choses, etc. Et parce que pour certains, la politique, c'est pas pour le quartier, pour le collectif. Il y en a très peu, des gens comme ça. Il y en a très peu. Pas que dans les quartiers, d'ailleurs, d'une manière générale. Très peu de gens qui vont aller s'investir dans la chose publique pour le collectif. Beaucoup veulent d'abord traiter des sujets plus personnels, ce qu'ils ont droit, hein, un logement, un boulot, etc. Et le collectif derrière, il s'en fiche un petit peu. Donc il y a beaucoup d'opportunisme aussi politique. Et du coup, la conséquence de ça, c'est le clientélisme que vient d'évoquer Jean-Pierre. Et c'est toxique, c'est absolument toxique parce que derrière, vous allez avoir, j'en connais très bien, hein, je vais pas forcément parler que de ma ville, mais des élus ou des candidats qui vont venir 3 à 6 mois avant dans les quartiers promettre monts et merveilles.
C'est ce que je viens de vous dire.
Être élu plus ou moins au la main d'ailleurs, et derrière ne pas délivrer. Bien sûr, vous allez avoir un divorce, mais pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait du clientélisme, faut un commerçant, faut un client. Eh ben, arrêtons d'être des clients, devenons des citoyens.
Eh ben, on va en parler avec Jessica Elonguer. Vraiment, Jessica Elonguer, vous, élue de Creil justement, quand vous entendez tout ça ?
Ben, je pense qu'à un moment, il va falloir remettre aussi le sujet où on parle éventuellement des quartiers. Et souvent, en effet, on va parler des banlieues, du périphérique. On va rarement parler des zones rurales et pourtant elles sont d'autant plus concernées. Moi, je veux mettre en avant la question de la politique de la ville qui est quand même un dispositif qui devait permettre d'éviter et de réduire les inégalités territoriales. On constate que finalement, ce dispositif emmène à la gentrification. Ça veut dire qu'on a les habitants de Paris qui vont de plus en plus.
C'est pas ce que nous a dit la députée tout à l'heure, Madame Nadia.
Désolée,
Nadia,
c'est la réalité.
Ancien ministre de la ville.
On va construire des logements, des logements neufs. On va nous vendre le neuf, mais il faut avoir un coût. Aujourd'hui, un logement neuf, c'est au moins 195 000. Alors, pour avoir 195 000, pour contracter un crédit de 195 000, il faut toucher entre minimum, et encore quand la banque est gentille, 2 000 euros. Aujourd'hui, les habitants qui vivent dans les banlieues ne sont pas tous à 2000 euros. S'ils ne sont pas cosmiques et voire des fois, parfois, souvent en dessous.
C'est une réalité. D'accord, okay.
Et donc, du coup, ils sont obligés, encore une fois, de se délocaliser. Et en fait, on fait fuir aussi indirectement les habitants de la ville et on les repousse.
Oui.
Et à un moment, je pense qu'on finira par tomber dans l'eau si on n'est pas du côté du littoral. Parce que, à un moment, à force de pousser, voilà ce qui arrive.
Mais j'ai l'impression que vous nous brossez un tableau noir.
Non, pas un tableau noir parce que, moi, je viens des quartiers, pour se dire difficiles. J'ai grandi à Gare-Charcelles. Je suis ensuite allé à Creil. J'ai fait mes études à Goussainville et je travaille à Vitry-sur-Seine. Donc, pour le coup, je connais bien et je serai la première à défendre les quartiers pour dire que la richesse qu'il y a, la diversité, le carrefour du croisement de ces cultures, c'est juste magique à un moment. Et moi, je trouve que c'est dommage que le gouvernement ne se saisit pas de cette opportunité parce que je pense que lorsqu'on va dans les quartiers qui sont des quartiers de banlieue et qu'on voit ce métissage culturel, eh bien on peut qu'être fier. Et quand la France défend des valeurs, si je puis dire, dans d'autres pays, elle devrait prendre exemple de ce qu'il y a en interne et aussi pour voir les mettre en avant. Et souvent c'est pas ce qu'il y a et du coup ça pose une question sur la question de l'identité nationale. Et quand vous nous dites est-ce que les quartiers se sentent concernés ou se sentent français aussi indirectement.
On en parlera tout à l'heure.
Eh bien, des fois oui, des fois non. Et souvent plus non que oui. Donc à un moment, oui, c'est une question. Oui.
On va en parler. Des fois oui, des fois non. C'est pas mal. Oui. Effectivement. Non, mais attendez, on va prendre. Oui, vous avez raison. On va comprendre. Il y a des raisons, évidemment, à tout. Cause à effet. Il y a évidemment. mais on va. Jean-Pierre Colombier, je vous l'accorde, il faut qu'on prenne le temps de comprendre pourquoi des fois oui et des fois non. Gamal Abina.
Déjà, il y a plusieurs éléments. Premier élément, il faut traduire gentrification, hein, parce qu'il faut que ce soit bien précis dans la tête des gens. Ça signifie faire en sorte que des gens d'origine européenne, avec un revenu suffisamment élevé, puissent vivre entre eux tranquillement dans des zones protégées. Donc je traduis, Paris devient une ville de Parisiens blancs, européens, avec de l'argent. Et on dégage au fur et à mesure, parce qu'il y a des cités à Paris aussi, on les oublie, on les dégage avec une technique que j'ai vue à Porte de Bagnolet, pour être très précis, dans la cité de Joseph Piton. On leur dit, on va vous trouver un bel appartement. Pas ici, parce qu'on a détruit 30% des appartements, donc déjà 30% des gens dégagent. On vous propose un bel appartement que vous pourrez vous payer, mais loin de Paris. Surtout pas Paris. Donc c'est une bataille au quotidien et malheureusement les gens de ces quartiers en l'occurrence ne sont pas organisés. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de syndicat.
Ce que vous nous racontez, c'est une réalité?
Ben, j'ai vu, j'ai oui, participé à des réunions, d'accord, et j'ai dénoncé cette méthode-là. Et d'ailleurs, il y a un responsable communiste qui était là.
Vous confirmez les dires de Jessica Lambert, c'est-à-dire d'éloigner la population des quartiers.
Parfaitement réfléchie par ce qu'on appelle la sélection par l'argent. Parce qu'évidemment, pour pouvoir payer un loyer, quand il commence à monter à 500, 600, 700, c'est encore gérable. Mais quand on dépasse les 1000 euros, si on n'est pas un couple de gens à peu près bien rémunérés au travail, faut pas oublier qu'il faut être au travail avec un CDI, c'est quand même mieux, on exclut. Ensuite, on met beaucoup la focale sur les quartiers comme si c'était une sorte de laboratoire de la France. Non, les quartiers, c'est juste un symptôme de la France parmi tant d'autres. Je prends l'exemple. Pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent plus à la politique? Moi, je ne reproche pas aux quartiers de ne pas voter parce que les Français eux-mêmes, les jeunes Européens français, ne votent plus. Ils y croient plus. Et pourquoi? Parce que depuis la chute des espoirs à l'est du mur de Berlin en 89, eh bien la gauche a été atomisée, elle n'existe plus.
Donc on peut parler d'un divorce.
Plus qu'un divorce.
Plus qu'un divorce.
Un désespoir. Comme on n'a pas de référent, et on se dit que c'est pas possible d'un système égalitariste, socialisant, un peu plus réparti, qui répartit ses richesses, qu'on est dans une politique ultralibérale, évidemment que les quartiers qui votaient plutôt à gauche en vérité, parce qu'ils se sentaient un petit peu protégés par la Mitterrandie, dont on pourra dire beaucoup de choses en mal, évidemment, bah, ces quartiers-là ont compris qu'il n'y avait pas, il y avait rien à droite pour eux, parce que le discours de droite est de plus en plus nationaliste, de plus en plus identitaire, ethno-identitaire. Il faut bien préciser que l'identité française, c'est l'ethnie.
Gardez ça, cette énergie, gardez-la. Vous savez quoi? La réalisatrice me dit qu'il faut absolument qu'on marque une pause. On se retrouve dans une poignée de minutes et je vous donne la parole. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Sur Beurre FM, vous le savez, cette émission spéciale, c'est ici que ça se passe, consacrée aux quartiers populaires et à notre République. Les quartiers populaires, évidemment, se sentent-ils en marge de notre société? Y a-t-il deux sociétés, comme le disait Jessica Longuère tout à l'heure? Oui, on peut se poser la question. Avec notamment nos invités, Jessica Longuère, élue à Creil, Gamal Abina, sur ces questions, évidemment. Quiconque, évidemment, comme lui, connaît ces questions-là. L'ancien élu de Rosny-sous-Bois, il s'appelle Melad Ouchenir. Il est avec nous et exceptionnellement costume-cravate.
Ah, c'est exceptionnellement, vrai, hein. Oui, oui.
Je vous ai rarement vu en comme à chaque costume, fois. C'est vrai. Hein.
Effectivement, j'enchaîne quelques rendez-vous, donc je suis venu en uniforme.
C'est le business. Ancien commandant de la police, le porte-parole des policiers indépendants, donc il connaît très bien les quartiers, il s'appelle Jean-Pierre Colombiès, ils sont avec nous. Je redonne la parole à Gamal Abina. Il était en train de nous apporter, évidemment, un point de vue concernant son regard sur un des faits très précis.
Alors, la question des jeunes, par exemple, parce que moi je suis plutôt optimiste en vérité, j'ai pas tellement le discours que tu as développé. La question des jeunes, c'est quoi? C'est que les jeunes, en général, ne votent pas. Ça, c'est traditionnel, parce qu'effectivement, on ne croit plus aux politiques depuis 68, quasiment. Il y a un déclin de l'intérêt sur la chose politique.
Il a dit une vérité, quand même, sur laquelle je reviendrai sur...
Oui, on va aller sur le débat qui va. Après, les opportunistes qui arrivent à la dernière minute... Ouais,
voilà, c'est de cela dont je voudrais parler.
Ça, c'est écœurant, on est d'accord là-dessus. Je savais que tu allais rebondir là-dessus. Oui. Mais une chose qui est certaine, d'abord, il faut se rappeler de qui ne vote pas dans les quartiers.
Oui.
Nous sommes tous des descendants d'immigrés qui n'y avions pas, sauf De Gaulle nous a donné ça pendant 3 ans, 4 ans. On n'avait aucun statut légal. On était les sujets de la France, donc pas des citoyens.
Vous parlez de qui? Des quartiers?
Ah non, je parle à l'origine du mal. Oui. Je reviens sur les parents. Les parents n'avaient pas le droit de vote, ils n'étaient pas français très souvent, et donc n'ont pas inculqué cette culture de la politique à leurs enfants. C'est-à-dire que dans la tête des parents, le vote, ça ne veut rien dire parce qu'on n'est pas français. Donc quand on dit aux enfants, vous n'êtes pas français, même si vous êtes en France, vous avez une carte, vous avez moins de droits que les autres. Ils ont intégré l'idée qu'ils n'étaient pas vraiment citoyens de ce pays et qu'en plus, on leur fait ressortir par évidemment un traitement à la périphérie. Donc tous ces éléments-là ont constitué quoi? Pas un désamour de la politique, mais une méconnaissance totale des droits politiques. C'est pourquoi il y a mon association qui parle justement de droits, parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans le droit. Je prends un exemple très concret. Un jeune de quartier.
Rappelez votre association Mouvement.
Mouvement des droits civiques. Je fais la promotion.
Et vous en êtes le porte-parole et le fondateur.
Tout à fait. On était plusieurs, mais je fais partie des fondateurs. De Gaulle, en 58, propose, et c'est le premier à faire avant les Américains, je rappelle, les droits civiques aux Algériens. C'est comme ça que ça commence, pour essayer de pacifier le territoire. Donc ils ont droit à ce moment-là.
En 1970.
Non, 58.
À 58 avant.
Et donc ils leur donnent le droit de vote à ce moment-là. Non, c'était 132 ans de colonisation.
Vous avez raison.
Donc 128 ans après la colonisation, on leur donne le droit de vote. Donc les Algériens, ils ne savent pas quoi en faire. Ils votent pourquoi? Pour que la France dégage. Ils arrivent en France, parce qu'on les appelle aussi. Il faut se rappeler qu'on les a fait venir. J'ai eu un débat hier avec Jean Messia où je l'ai un peu ridiculisé parce qu'il n'est pas bon en histoire. Hein. Je ne vous cache pas que c'est un type qui est très light sur le plan des idées. Mais ils ont un dogmatisme. On a l'impression que c'est une invasion migratoire. Non, on a été les chercher. On a été les chercher parce qu'on avait besoin de ses bras. Et aujourd'hui, les parents qui étaient de là-bas, qui pensaient retourner, le mythe du retour était resté, n'ont pas inculqué à leurs enfants l'idée selon laquelle ils pourraient voter, s'inscrire dans le débat politique, se battre. La plupart, et là où je suis, pour conclure mon propos, là où je suis plutôt optimiste, c'est qu'en vérité, on a un ami par exemple commun qui s'appelle qui est devenu maire de Villetaneuse.
Bah, Dieu Nord Excellent.
Dieu Nord Excellent.
Bah oui.
C'est son nom qui m'a.
Il a fait son élection ici,
tout
je vous le rappelle.
Dieu Nord Excellent a été élu par des gens des quartiers parce qu'il a fait la synthèse de tout le monde. Il l'a pas fait par communauté. Il a dit, nous sommes tous des citoyens. Battons-nous pour que la ville change. Dieu Nord Excellent est très bien vu, mais c'est pas le seul. Il y en a plein comme ça.
Karim Bouhamral,
ça. Ouais, ouais, toute une collection de
Karim qui était ici chez nous.
Ouais, et ces gens-là n'ont pas
débatteurs.
Été.
Grand débatteur.
Ils n'ont pas été à Bobigny.
Absolument. Ils n'ont pas été
très. Oui, il y en a plein, ils sont nombreux.
Ou qui ont été reconduits. On sait que il y a plusieurs maires qui ont été reconduits. C'est un phénomène nouveau, mais qui s'amplifie. J'ai envie de dire que moi, plutôt, je suis plutôt optimiste parce que je me dis, c'est ces gens-là issus de l'immigration à qui on a dit votez, 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 ça commence à prendre. Ça commence à peser. Et on voit bien au niveau politique, M. Macron, par exemple, sa première campagne, s'appuie à fond sur l'immigration. C'est comme ça qu'il a placé député.
Et la jeunesse.
Aussi des déclarations.
Et la jeunesse.
Et là, on vient d'avoir une ministre, une ex-ministre, je suis désolé, elle vient de Mantes-la-Jolie. De la périphérie
trappe.
De la périphérie, c'est vraiment le coin perdu. Ça a été, dit
la
par
ville de Djamel Debbouze et Omar Sy.
Oui, aucun accès. C'est les villes perdues.
Ah non, mais je confirme, Trappe, moi je connais très bien.
Ah voilà.
C'était, comment s'appelle l'ancien député Carnot ?
Oui, il me semble.
Carnot, il me semble de mémoire. C'est à l'autre bout.
C'est la zone.
C'est vraiment, il n'y a rien, hein. Il n'y a absolument rien.
C'est la campagne dans la campagne. Oui, c'est pour ça que je dis sur ces questions-là.
Carnot, je crois, il me semble.
C'était le cas de la plupart des implantations.
Qui a fait un travail exceptionnel.
C'était le cas de la plupart des implantations urbaines dans les années 60-70. On ne s'est pas préoccupé du fait que les immigrés qu'on faisait venir en masse pour Renault, Peugeot, et j'en passe et des meilleurs, allaient avoir des enfants, tout simplement. Et on ne s'est pas préoccupé de l'éducation et de la nécessité de leur donner envie d'être français.
Parce qu'on n'a pas compris que c'était des êtres humains, donc ils ne se reproduisaient pas.
Si on l'a compris, on s'en foutait. On s'en foutait.
Chez l'ironie.
Oui.
C'est compris quand même.
C'était des ouvriers, des main-d'œuvre, de la main-d'œuvre.
Absolument.
La main-d'œuvre, ça ne réfléchit pas.
Il y a un sujet sur lequel, évidemment, je voudrais qu'on s'attarde un peu. Vous savez, c'est qui a attiré mon attention. C'est Jessica qui l'a évidemment mis en exergue. C'est-à-dire, un coup on est français, un coup on ne l'est pas. Pourquoi il n'y a pas ce sentiment d'appartenance à la nation, évidemment, quand on vient des quartiers populaires ? Pourquoi on se dit, on vient, souvent régulièrement, entendez l'oreille. On dit, on fait référence au quartier de France. C'est-à-dire, je suis originaire de Trappe, comme vous voulez dire, de Mantes-la-Jolie, de la cité nord de Marseille, de Montpellier, etc., etc. Bref, des quatre. C'est la tâche. Mais jamais on fait référence, si vous voulez, à la nation. Je me sens français. Oui, Jean-Pierre, est-ce qu'on a une explication, Jean-Pierre Colombiès?
C'est la mienne, après, je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, peut-être pas grand-chose, mais parce qu'on confond ethnie et culture. Je veux dire, le fait d'appartenir à une ethnie n'empêche pas, enfin, d'origine, s'entend, qu'elle soit africaine, nord-africaine, sud-africaine, subsaharienne, n'empêche pas d'acquérir à un moment donné la culture, une culture d'adoption, qui est la culture française, et qui fait qu'on peut être français à part entière en étant noir ou arabe, tout simplement. Parce qu'on acquiert à ce moment-là une notion, une conscience philosophique, littéraire, et j'en passais des... Enfin, tout un panel de structures, de valeurs qui fait qu'on peut tout à fait être français et être d'origine diverse. Et à ce moment-là, ça devient une richesse, effectivement. Sous couvert de ne pas... de naïveté, sous couvert d'éviter la naïveté aussi, de ne pas accepter une immigration qui n'a rien à faire là, qui est ce que moi je considère comme une immigration parasitaire et qui n'a qu'un seul but, c'est profiter d'un système au détriment, j'insiste vraiment là-dessus, de cette immigration qui s'est intégrée, comme tu l'as dit fort justement, comme tu l'as dit Nabil, cette immigration qui fait l'effort de devenir une immigration citoyenne. Et on arrivera... Ce pari, on arrivera au bout de ce pari. Ça, vraiment, c'est mon point de vue. Je sais pas, peut-être que vous le partagerez pas. Mais si on fait très attention aux personnes, aux individualités qu'on accueille et qui, elles, n'ont pas le même objectif et qui refuseront et qui refusent, d'ailleurs, on le voit malheureusement au travers de certains faits divers, qui refusent l'intégration et qui sont même en lutte contre ces fameuses valeurs que je considère comme étant des valeurs supérieures et des valeurs qui permettent de vivre ensemble.
Je faisais référence tout à l'heure à un ancien député, c'était pas Trappe, c'était une autre ville justement du 78. Alors effectivement, je viens de vérifier, c'était pas du tout à côté. Mela Douchinia, c'est vrai, cette appartenance à la nation. Pourquoi on se sent pas français? Un coup oui, un coup non. D'ailleurs, régulièrement, quand on fait le sondage, c'est même pas du 50-50. C'est quoi plutôt, Jessica Longuerre, vous l'élu? C'est quoi? On se sent français davantage 40%, 30% et...
Ça varie des moments, mais je pense
C'est d'abord le quartier qui est mis en avant.
C'est d'abord le quartier qui est mis en avant. Il y a un fort sentiment d'appartenance.
Appartenance,
laisser, ouais. Avant de déblayer.
Non, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter aussi d'opposer ces deux notions-là. On peut être français et être de tel quartier. Mais c'est très français aussi. Regardez-moi, je discutais régulièrement avec des amis. L'autre va vous dire, je suis franc-comtois. Je suis breton. Je suis berrichon. C'est quelque part, c'est très français que de revendiquer son identité régionale. Simplement, pourquoi après dire je viens de Trappe, ça fait pas pareil de dire que je viens du Poitou, comme pouvaient le dire d'autres hommes politiques français auparavant, c'est que quel traitement médiatique fait-on à Trappes versus le traitement médiatique qu'on fait au Poitou, à la Franche-Comté ou à la région centre. C'est plus là le sujet, c'est de pouvoir assumer effectivement ses identités.
Le mot intégration, on ne l'a pas inventé.
Non,
régulièrement, on l'a entendu
en revanche,
ce mot.
Non, on ne l'a pas inventé, mais on en abuse. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive de son pays d'origine, là, depuis deux semaines ou quelques mois, il y a une question d'intégration. Qu'il apprenne la langue, faut qu'il apprenne on va dire tout le cadre citoyen qui l'entoure, mais demander à des gens nés ici comme moi ou d'autres de s'intégrer, moi, je comprends pas, parce que je suis né dans le 18e, je grandis donc Paris Colombroni, dans ma tête j'ai jamais eu de travail d'intégration à faire dans la mesure où je suis toujours sorti français.
Vous sortez français,
mais
oui, toujours.
Bien sûr, mais oui. Complètement, et ça ne m'empêche
pourquoi
pas.
Pourquoi les gamins ne sont des jeunes des quartiers
parce
populaires
parce qu'ils regardent la télé, Adil. Désolé de vous le dire, et ils écoutent aussi des personnes qui en ont fait un fond de commerce, pardon de le dire aussi comme ça. Faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Vous êtes né en France, vous êtes français, il n'y a pas question de s'intégrer où que ce soit, vous l'êtes.
Avec
ensuite,
cette double culture.
On choisit, mais double culture, même triple parfois. Vous allez avoir une mère vietnamienne, un père nord-africain, et vous êtes né en France pour avoir une culture extrêmement plurielle.
Qu'est-ce que vous dites,
et ça n'est pas une faiblesse.
Je dis pas contre-culture, par contre. On peut effectivement être l'héritier de plusieurs cultures, et tant mieux. C'est pas le souci, c'est même une richesse. Mais il ne faut pas que ce soit une contre-culture.
Je faisais même référence aux binationaux, moi.
Absolument.
Oui,
mais
en
quoi c'est un problème ? En quoi c'est un problème d'avoir. Moi, j'ai deux passeports. J'ai un passeport français, j'ai un passeport algérien.
Algérien ? Ça va pas, non ?
Absolument. Absolument. Un vert et un marron. Et ça marche très bien. Les deux ne s'annulent pas quand je les superpose. Tout se passe bien et j'ai jamais eu de problème avec ça. Pourquoi c'est un problème ? Pourquoi c'est un sujet ? Parce qu'il y a alors, certains élus très, très à droite qui en font, ou des politiciens d'envergure nationale qui en font un problème. Mais c'est pas un problème. On peut être français et suisse. On peut être. Voilà. Pourquoi on est toujours dans l'opposition des doubles cultures, des doubles nationalités.
Excusez-moi, il y a un discours aussi des pays d'origine qui n'a pas été très clair. Je pense notamment à des déclarations d'Hassan II un certain temps qui disait que l'intégration du peuple marocain en France n'était pas souhaitable.
Il l'a dit dans les années 80,
bah, peut-être,
de mémoire.
Oui, mais il y a des lois qui ont été.
Non, mais peut-être,
il l'a dit. Ils sont tous marocains.
Il l'a dit.
Oui, il a dit les sujets, il parlait de sujets.
Oui, mais ils ont tous une carte marocaine, ils sont obligés de la montrer quand ils rentrent au Maroc. Donc ça, c'est classique. C'est qu'il ne veut pas les perdre, c'est pour ça. Lui, c'est vraiment une appropriation de.
Oui, mais. Pourquoi c'est incompatible avec être français ?
C'est entendu.
Du point de vue d'Hassan II, son objectif, c'est de l'argent qui revient. C'est 15 milliards par an, quand même.
Mais il y a 30 ans, peut-être, mais aujourd'hui, en quoi c'est incompatible ? Des franco-marocains, j'en connais.
C'est un peu compatible, parce que ça
m'a bien fait. Commencé par ma propre épouse, il n'y a pas de problème.
Je ne veux pas monopoliser le temps de parole, surtout pas. Mais un exemple simple. En Belgique, vous me direz, la Belgique n'est pas la France, sauf qu'on est un peu cousins quand même.
C'est pas faux.
Et quand vous voyez, vous entendez que certains, par exemple, porteurs de l'idéologie wahhabite ou en tout cas très très orientés salaf, sont élus sur des listes municipales avec un programme totalement lié à la charia et donc complètement en opposition avec la culture environnante, en demandant le rétablissement de la peine de mort, la séparation des filles et des garçons dans les écoles, ce genre de choses, là je considère que c'est de la contre-culture et c'est très dangereux.
Oui, vous avez raison de le rappeler, effectivement. L'émission continue, on marque juste une dernière pause et on se retrouve dans une poignée de minutes, justement. Extrêmement sujet. Je le savais qu'il fallait qu'on fasse cette émission spéciale autour des quartiers. Passionnant, hein.
C'est des aides.
Oui, bien sûr. Non, mais on va en parler, vous inquiétez pas.
On a le conducteur
qui est là, et vous inquiétez pas, on va traiter au mieux tout cela. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Émission spéciale Les Informés, spéciale quartier populaire, et on s'intéresse pour essayer au mieux d'aborder toutes les questions qui nous concernent. Chers amis auditeurs, vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. Cette émission, c'est avec notamment nos invités qui sont avec nous, Ménad Ochenir, Jessica Elonguer, Jean-Pierre Colombiès, mais également Gamal Abina. Tous viennent évidemment nous apporter leur éclairage concernant les quartiers populaires. Mais tout de suite, vous le savez, évidemment, Pascal Boniface avec son édito, son Quad Neuf, comme chaque jeudi soir, évidemment, nous le retrouvons et c'est avec lui, évidemment, nous allons direction le Quad Neuf. C'est parti.
Les informés, le Quad Neuf.
Et le Quad Neuf, comme chaque jeudi soir, c'est avec Pascal Boniface, le président fondateur de l'Institut Léris. Bonsoir, mon cher Pascal Boniface.
Bonsoir Adil.
Comment allez-vous ?
Bah écoutez, très bien, comme à chaque fois je suis à votre micro.
Eh bien écoutez, nous vous donnons la parole pour votre billet d'humeur dans le Quad Neuf.
Alors le président Zelensky est en Europe, il est passé à Bruxelles, après être passé d'ailleurs à Londres, on voit l'ordre des priorités. Mais il y a, au-delà de la guerre en Ukraine, un débat en France sur qu'est-ce qui s'est passé avec la Russie. Alors, il y a une toute petite minorité, mais vraiment très peu nombreuse, de gens qui pensent que la Russie a bien fait de se défendre, qu'elle a été attaquée et que finalement Poutine est en son droit. Mais c'est vraiment très marginal. Disons que les faits sont là, c'est bien la Russie qui a pris l'initiative de la guerre et qui a agressé l'Ukraine. Mais si à partir de ces faits incontestables, il y a deux interprétations très différentes. Pour la première, en fait, les Polonais, les Baltes avaient raison depuis le départ. Il était vain de vouloir parler avec la Russie, de parler avec Poutine, et la Russie est en fait un pays agressif par nature. Poutine cachait son jeu, il n'attendait que son heure pour commettre ses forfaits. Pour les autres, eh bien en fait, on a perdu la Russie. Ils n'excusent pas l'agression, ils la condamnent, mais ils estiment qu'on a fait beaucoup d'erreurs à l'égard de la Russie et que, notamment, on ne l'a pas réellement considéré comme un partenaire, on ne lui a pas offert cela et on l'a, notamment les États-Unis, traité comme un pays qui avait perdu la guerre froide et qui n'avait pas tout à fait son mot à dire sur les affaires internationales. C'est un vrai débat. Honnête, le problème, c'est que ces gens-là sont mis dans le même sac que ceux qui soutiennent la guerre. Et on a vu notamment un long article dans Le Monde qui critique très fortement Mme Carrère-Dancos et que tous ceux qui estimaient qu'on aurait pu agir différemment à l'égard de la Russie sont traités comme des poutinolâtres, des partisans de Poutine et des gens qui approuvent la guerre alors qu'ils la condamnent et que justement ils ont mis en garde pendant très longtemps en disant « attention, attention ». Si on ne traite pas la Russie comme un partenaire, si on élargit l'OTAN sans réfléchir, on va à la catastrophe. En fait, ils ont lancé des alertes que l'on n'a pas écoutées, mais on voit que l'ambiance actuelle, effectivement, il est devenu impossible d'avoir cette voie-là, sinon on est tout de suite assimilé à un partisan de la guerre que Poutine mène, et je pense qu'il y a un enjeu essentiel, disons, de vraies, véritables réflexions sur cela, et de ne pas réduire un peu le débat a des catégories, les bons, les méchants. Une fois encore, c'est Poutine qui a pris la décision de recourir à la guerre. Mais une fois encore, l'Occident a commis des erreurs à l'égard de la Russie. Et je crois qu'on n'a pas à choisir entre les deux. Les deux sont vrais.
Merci encore. Vous savez que c'est toujours un régal, évidemment, de vous écouter chaque jeudi soir dans le Quoi de Neuf. Merci pour ce décryptage géopolitique, mon cher Pascal Boniface.
Eh bien, jeudi prochain.
À jeudi prochain, sans faute, et prenez soin de vous d'ici là. C'était le Quoi de Neuf.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Allez, je vais m'adresser maintenant à Jessica Ellonguer, dans cette spéciale quartier populaire, Jessica Ellonguer, justement. Toujours dans le même sujet, l'appartenance. Qu'est-ce qu'on dit, vous, élu, justement?
Alors, si on veut comprendre pourquoi aujourd'hui les jeunes ne se sentent pas si français que ça, mais pas aussi ailleurs, puisque moi, j'ai fait partie de ces jeunes, premièrement. Non pas que je me sentais plus africaine ou pas. Moi, j'ai un père qui a grandi à Cuba, j'ai une mère qui est d'origine ivoirienne, et mes deux parents sont bouddhistes. Donc, pour vous dire que je me sentais nulle part, premièrement, et que ça créait chez moi une grande crise identitaire. Premièrement, puisque en France, on a un discours...
Le mot est lâché. Non, mais c'est vrai. Crise identitaire.
Qui vend...
C'est souvent ce qui se produit dans les quartiers populaires, chez les jeunes.
Et cette domination, elle est masculine et elle est blanche. Donc, a priori, visiblement, je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc, forcément, on peut comprendre qu'à un moment, ça peut créer des déséquilibres quelque part. Alors, si on veut comprendre pourquoi il y a ce déséquilibre, déjà, il faut remonter, comme Nabil l'a montré, c'est l'histoire. Et il faut qu'on mette le point sur que l'histoire... On peut le mettre de côté, mais la question, c'est la mémoire.
Comme donc, Nabil l'a rappelé, c'est qui Nabil?
Gamal.
Excuse-moi.
Gamal Abina.
Excuse-moi.
C'est le Nabil.
Je cherchais le Nabil, je me disais où est-il passé.
Excuse-moi.
Il y avait un Nabil que j'ai invité Nabil et je ne sais pas où il est passé.
C'est sorti tout seul.
Pardon, allez-y. Non, ça arrive.
Elle avait raison, Jennifer.
Ça arrive.
C'est bien joué.
Excellent, il est bon le Gamal.
Et donc, au moment où on parle, ben voilà, il y a des murs autour de nous et ces murs, ils ont une histoire.
Oui.
Et donc,
c'est très bien,
il faut la raconter, cette histoire. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans le récit national, il y a certaines histoires qui ont été occultées. Et donc, forcément, vous comprenez bien que lorsqu'on parle de l'histoire d'Algérie, lorsqu'on parle de l'histoire des tirailleurs sénégalais et qu'on voit cette histoire qui est occultée, on se rend compte qu'on vient insulter aussi, ben, nos grands-parents, nos parents, nos aïeux, qui ont participé à faire grandir la France et qui ont participé à construire la France. Et donc là, il y a un gros problème puisque ça crée vraiment une tension vis-à-vis de l'identité nationale. Pourquoi on devrait se sentir français dans une France qui occulte une partie de l'histoire et qui fait fi du nombre de morts qu'il y a eu pour faire grandir ce territoire. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la question de la politique. Il y a eu de nombreuses politiques qui n'ont pas favorisé la mixité sociale. On peut aussi parler des communes à Paris qui préfèrent payer plus d'impôts que de respecter les règles de mixité sociale. Ça existe. Donc on voit que de toute façon, les politiques n'ont pas joué le jeu pour faire intégrer les personnes. Donc quand on parle d'intégration, mais...
Et c'est une élue de 20 ans qui parle, hein.
Quels ont été les éléments qui ont été mis en place pour intégrer ces personnes? Ces politiques ont créé deux choses. Premièrement, la question de l'affirmation, les revendications. Il faut savoir que lorsqu'une personne revendique, elle veut forcément s'opposer à une domination. On ne revendique pas pour revendiquer. On ne s'affirme pas pour s'affirmer. On vient essayer de pousser cette domination qui vient un peu effacer notre identité, notre individualité. Donc forcément, elle va créer l'affirmation du territoire, où on va avoir de nombreux jeunes qui vont essayer un peu de s'accaparer des territoires, de les ghettoiser, je pourrais dire comme ça, et finalement de faire en sorte de ne pas bouger. Et deuxièmement, elle va créer une discrimination anticipée. Ça veut dire que la discrimination anticipée, c'est quoi? C'est qu'un jeune, au lieu de promouvoir son capital social et d'aller faire des études, etc., il va dire, mais de toute façon, même si je vais faire de longues études, eh bien, on me prendra pas parce que je suis noir, parce que je suis un arabe. Donc, vous savez, je vais faire quoi? Je vais rester là et je vais rien faire. C'est ce que ça crée.
Oui,
finalement,
parce que l'exemple des aînés.
Bien évidemment.
Et puis l'exemple des aînés, c'est-à-dire qu'il a vu ses aînés. Non, mais c'est vrai. Aller loin dans les études, etc., pour finir parfois, évidemment, agent de sécurité, chômage, ou encore, évidemment, dans un supermarché.
Mon père en fait partie. Il est parti étudier et ici, il n'a pas pu trouver d'emploi et on sait pourquoi.
Et c'est pas normal.
C'est pas normal. Et dernièrement, je vais revenir sur la question de la police, puisque moi, j'en ai été.
On en parle. Non, attendez-vous. Attendez.
D'accord.
Vous sautez trop le chapitre. Attendez, on va en parler. Nous allons en parler. Attendez, il y a l'épisode 1, l'épisode 2.
Ah oui, d'accord.
Step by step. Je vais vous garder deux jours. Vous allez jeudi soir et vendredi soir. C'est pour ça que je veux qu'on prenne le temps qu'on en parle. Gamal Abina.
Moi, j'ai envie de dire une chose. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique,
j'ai la réponse.
Dans le pays où le racisme policier n'est pas caché, on voit régulièrement des meurtres de policiers de façon évidente.
Restons sur l'appartenance.
Justement, on va y
arriver. Français, pas français.
Le dernier policier qui a tué un noir, il était sur fauteuil roulant, il n'avait pas de jambes. Ça vous donne un peu le niveau de violence. Et pour autant, aux États-Unis d'Amérique, on ne demande jamais à un noir quelle est son origine. Ils s'en foutent. Ni un latino, ni un chinois, ni un coréen. On ne lui demande pas. Il est américain parce qu'il est en Amérique. Il parle anglais, ça suffit. Ces questions en Angleterre ne se posent jamais. Quand j'étais en Angleterre, on ne vous pose pas la question de votre origine. Si vous ne parlez pas l'anglais, ils savent que vous êtes français, c'est tout. Vous arrivez en France, qui n'a pas connu ça?
Ah bah.
Alors je vais vous dire un exemple.
De quelle origine es-tu?
Votre tronche. Parce que le marqueur identitaire, c'est le visage. Bon, noir, c'est encore pire. Celui-là, il peut même pas faire semblant. Parce que les Arabes, il y en a qui se déguisent, qui mettent un peu de blond sur les cheveux, qui lissent un peu avec des produits détruisants les cheveux. Ceux-là, ils réussissent un peu à masquer.
Ils font pas typer, parfois.
Ouais, ou qui se font appeler Jean, mais Siha, pour faire croire qu'ils sont autre chose. Ça, c'est de l'arnaque. Son vrai nom, c'est Pierre, au demeurant, parce que Boutros, sa tradition, c'est Pierre. Je l'ai charrié.
Donc, contre lui.
Ah non, parce que j'ai charrié parce qu'il se fait appeler Jean au lieu de se faire appeler Pierre. On traduit Pierre, Boutros, c'est Pierre en français.
Vous n'avez rien contre Jean-Pierre, j'espère.
Non, du tout, j'adore. Surtout les Colombiès. Mais plus tant que je ne montre pas les papiers. Mais pour dire quoi? Pour dire que.
Vous allez avoir des emmerdes, vous, avec la police.
J'adore les policiers, c'est mon kiff. Il n'y a que là-bas que j'aime pas, mais ça, c'est un débat. Mais plus sérieusement, pour dire quoi? Pour dire que quand nous, dans les années 80, je parle de nous parce que je fais partie de ces gens-là. Ces gens qui, lorsqu'ils ne sont pas délinquants, oui, mais toi, c'est différent. C'est pas pareil. Qui ne l'a pas entendu, celle-là, hein, si vous ne la connaissez pas par cœur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est tous des sauvages, sauf nous. Ensuite, quand dans les années 80, ces petits Arabes et ces petits Noirs, surtout les Arabes, on était plus nombreux, avions manifesté pour la marche pour l'égalité et contre le racisme, mais pas la marche d'arnaque des beurres que Mitterrand, ce criminel, a mis en place en marketing. Ah, c'est
ce
pas du tout ça.
C'est pas mal quand même.
Oui, c'est un criminel de guerre. Il a assassiné en Algérie. C'est pour ça.
Ça c'est vous qui. Ouais. C'est encore un autre sujet.
Ça c'est l'Algérien qui parle.
C'est encore un autre sujet.
Oui, il a fait tuer des Algériens.
Il n'a pas signé les grâces. C'est pas la même chose.
Plus encore, il a poussé.
C'est pour ça que je disais, c'est un autre sujet.
Il a poussé à la guerre.
Ne prêtons pas ce chemin sur les
grâces. Je veux dire criminel parce que non, c'est pas pour les grâces. Il a poussé à la guerre. Il a vraiment.
Non mais restons.
Restons sur le sujet.
Restons sur le sujet s'il vous plaît.
J'ai plus de sympathie pour le personnage. Mais quoi qu'il en soit, quand Mitterrand va détourner la marche pour l'égalité contre le racisme, le mot est contre le racisme. C'est que ces jeunes Algériens, d'ailleurs, Toumi Djadja, c'est un fils de Harki. Donc vraiment, le type, il se prend des balles, il est fils de Harki. Donc son papa a travaillé pour la France. Eh bien, Toumi Djadja, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on veut être français. Comme tous, ils arrivent à 100 000 à Paris, ils veulent être français. Ils mangent du porc, ils sortent avec des Françaises, ils connaissent pas la religion du tout. Alors, pas du tout. Hein. Halal, ça n'existe pas à l'époque. Ils veulent être français.
Non, ça n'existe pas.
Manque de peau, ils reçoivent une fin de non-recevoir. 90, la nature est hors du vide, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a des types qui viennent d'Algérie, hein, ou de Tunisie par la suite, qui ont une petite barbe sympatoche, qui ont une religion très forte et qui sont identité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Donc là, une fois qu'il n'y a pas d'identité française, il y a ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'idée identitaire dont on parle, qui est une réaction épidermique de l'extrême droite, quand on parle d'identité, c'est l'extrême droite, hein. parce qu'eux, ils ont un problème, ils sont, c'est des paniqués du cerveau, c'était mieux avant. Quand ils voient ces bronzés débarquer, attention, il y a un remplacement, attention, c'est dangereux, René Camus, attention, ces gens-là ne sont pas comme nous. Alors, eux qui voulaient être français à part entière, sont devenus français entièrement à part, parce que non seulement géographiquement on les dégage, mais sur le plan du nom, ils ne devraient pas porter ce nom, Zemmour. Sur le plan du visage, ils devraient être un peu plus blancs. Bon, c'est dommage, ça ne marche pas toujours. Et sur le plan de l'attitude sociale, ils doivent la fermer et rester sous-citoyens.
On se retrouve pour la dernière ligne droite dans cette émission spéciale Les Quartiers Populaires. On parlera d'égalité des chances. On parlera aussi avec justement la déclaration du chef de l'État Emmanuel Macron en pleine présidentielle 2022. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les Informés, émission spéciale consacrée aux quartiers populaires, notamment dernière ligne droite avec Jessica Ellanger, élue à Creil, avec Gamal Abina, le porte-parole du mouvement des droits civiques. Nabil, non, ça c'est le pseudo. Mela Doucheni, ancien élu de Rosny-sous-Bois et enfin un ancien commandant de la police des quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, il est le porte-parole de la police indépendante. C'est la dernière ligne droite. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est d'écouter. On va parler égalité des chances, c'est très important. Parce que paraît-il que, aux yeux de beaucoup d'associations, de leaders associatifs, ce sujet a été abandonné. Écoutons, alors que, n'oublions pas, Elisabeth Borne, la toute première ministre, a parlé des discriminations il y a encore un peu plus de 15 jours. Elle en a fait évidemment tout un discours. Écoutons ce que disait en pleine campagne présidentielle, ça se passait à Saint-Denis, la déclaration d'Emmanuel Macron.
L'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. On a beaucoup ces derniers mois stigmatisé ces habitants en réduisant les débats, en opposant parfois, en clivant notre société. Notre discussion d'hier a pu le montrer à certains moments. Or, je pense que nous avons des difficultés, on les connaît. Elles sont parfois d'ordre économique, sécuritaire. Il y a des inégalités qui demeurent dans notre société. Et c'est notre défi collectif. Je suis convaincu d'une chose, on ne résout aucun de ces problèmes en séparant la société, en déconsidérant une partie de la population.
Voilà, déclaration donc en pleine campagne, justement, l'ensemble des habitants de nos quartiers, il a lâché le mot, hein, populaires sont une chance pour notre République. Jessica Ellanger, justement, comment vous réagissez? Est-ce le cas? Est-ce la réalité? Et puis parlons d'égalité des chances, justement, cette égalité des chances, aux yeux de beaucoup de leaders associatifs, qui a été clairement, disons-le, abandonnée.
Mais bien évidemment, alors, moi je vais revenir sur...
Alors quand on entend le chef de l'État, oui.
Quand on parle de la séparation n'a jamais été voulue par les personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Je veux dire que la séparation, c'est une conséquence politique. C'est un choix politique de mettre, de créer du communautarisme en mélangeant les personnes qui sont dites issues de la même communauté dans certains quartiers. Donc à un moment, il faut parler à ceux qui font de la politique et ceux qui ont un choix décisif pour qu'au moment, on puisse changer ce genre de choses. Moi, je vais revenir sur le discours qui a été celui de Sarkozy lorsqu'il dit « La France, on l'aime ou on la quitte ». On se rend compte que finalement, ceux qui ont quitté la France, ce ne sont pas finalement ces personnes d'origine étrangère, mais ce sont ces grands capitalistes qui ont, du coup, fait volatiliser. Voilà. Je suis désolé, mais à un moment, faut dire les choses. Et on se rend compte que finalement, on peut se dire aussi indirectement que non, ces personnes qui sont d'origine étrangère aiment la France. Elles sont restées. Techniquement.
Pas le choix.
Il a raison, Gamal Abina. Ils ont surtout pas le choix. Tous ceux qui ont le pognon se sont barrés de la France.
Oui, non.
Il y a ça aussi. C'est la vérité.
Oui, non.
Les gens qui des quartiers populaires, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont une manne, ils sont parfois au Moyen-Orient. Voilà. Ils ont fait. Non, mais ils ont au Canada. Ils ont été évidemment faire comment dirais-je leur ascension sociale. Qu'est-ce qui se passe?
C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est qu'on n'est pas question vraiment que de grands capitalistes, parce que puis quand ils quittent, c'est pour la Suisse ou la Belgique. Il y a beaucoup effectivement de.
Pourquoi? Parce que c'est le plafond de verre.
Non, mais je parle. Voilà, exactement. Le plafond de verre existe. Absolument pas dans le déni. Et effectivement, ceux qui se sont formés, qui sont qualifiés, qui payaient beaucoup d'impôts quand ils résidaient fiscalement en France, effectivement, vont au Canada, parce que là-bas, effectivement, dans le Canada francophone en particulier, on leur demande pas forcément. En tout cas, on ne les traite pas très différemment en fonction de leurs racines. Ils vont au Moyen-Orient, notamment aux Émirats et dans d'autres pays comme ça, où là aussi, leurs racines ne sont pas forcément perçues comme un handicap. Oui, ici, il y a un plafond de verre, mais j'allais dire, quelle est la solution? Que ce soit la conséquence de choix politiques qui ont été faits dans les années 60, 70, 80, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est dans les années 2020, dans 2023. C'est bien regarder dans le rétro, hein, pour pas refaire les mêmes bêtises, mais ouais. Je vois très peu de monde qui apporte des solutions pour que dans les années qui viennent, justement, les enfants de ces enfants, qui ont aujourd'hui commencent à avoir 15-20 ans quand même déjà, hein, ne se heurtent pas aux mêmes obstacles, même s'ils se heurteront à d'autres obstacles, parce que l'époque aussi change. Mais par pitié, ne restons pas braqués sur le rétroviseur. Il y a très peu de monde qui propose des solutions viables aujourd'hui, des solutions pérennes qui soient autres que chacun dans son coin, chacun pour sa peau, que pour ma communauté. Ça, effectivement, pour moi, c'est le début de la fin.
Pour proposer des solutions viables, il faut faire l'introspection sur ce qui a été passé et à un moment se dire là où on a fait des erreurs. Et à un moment, encore une fois, c'est super ou peut-être ultra politique de se dire qu'on fait fi de nos erreurs, mais il faut à un moment qu'on fasse un débat sur qu'est-ce qui a été fait. Pourquoi ça n'a pas marché et dans quel état d'esprit on était pour avancer?
Parce qu'à un moment, plutôt que de faire des débats sur ce qui a pas marché, est-ce qu'on ferait pas des débats sur ce qu'on peut essayer pour voir si ça marche?
Non, il faut faire d'abord des débats sur l'introspection. Il faut savoir qu'est-ce que ça a été.
Ça fait 30 ans que j'entends des débats à l'époque.
Mais parce qu'on ne tire pas
le grand débat depuis la marche des beurs. On va se cantonner à cette période-là. Voilà. Et on va jusqu'au débat sur l'identité nationale au moment de Nicolas Sarkozy avec le fameux Brice Hortefeux.
Entre temps,
on a eu des débats François Hollande, la nationalité, et n'oublions pas aussi la loi séparatisme, plus récemment.
Et maintenant, les lois sur l'immigration.
Des débats, on en a sur ce qui a marché, ce qui a pas marché. Puis on le voit, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Je veux dire, faut pas avoir fait, j'aime pas cette expression normale, Supélena ou Polytechnique ou Sciences Po ou les mines. Même si paradoxalement,
c'est cela, effectivement. C'est vrai.
Mais simplement, essayons des choses. Mais désenclaver un quartier, c'est une décision typiquement, pour moi, qui relève de la politique de proximité. Commençons par faire des choses mais très basiques. Après, effectivement, il y a peut-être des traitements plus sophistiqués par endroit, parce qu'il y a des secteurs plus particuliers, notamment ceux où on a des très fortes concentrations d'une communauté donnée. Parce que la mixité, elle n'est pas que ethnique, parce qu'on dit souvent ça, chaque communauté. Elle est aussi sociale, c'est-à-dire que des niveaux de vie et peut-être des niveaux différents, effectivement. Alors souvent, effectivement, c'est une certaine homogénéité. Mais quand on conçoit des quartiers, pour avoir été dans ce contexte-là, moi, dans ma ville à Rennes, sous-bois, on a beaucoup développé.
Un golf à Rony,
effectivement. Oui, dans les années 80, mais exactement. Et au golf, vous voyez, sur le parking, il y a des gens plutôt aisés qui viennent jouer au golf, mais pas que. Moi-même, j'ai fait du golf, cher Gamal. Oui.
Ouais. Alors, s'il vous plaît, sur l'égalité des chances, justement.
Pourquoi Jean-Pierre. Justement pourquoi les...
Non mais c'est le sujet là. Non mais c'est le sujet de la dernière partie. On parle de plafond de verre, on parle de discrimination, on parle de
deux secondes pour rebondir sur ce que j'ai entendu là sur Macron quoi, je veux dire c'est du vent, c'est des paroles, c'est du blabla et malheureusement c'est de ça dont on crève aujourd'hui. C'est une succession de politiciens qui font de la politique vide et creuse de sens. Puis on a eu des politiques de la ville, ça fait 30 ans qu'on a des politiques de la ville, on a eu Bernard Tapie ministre de la ville.
40 ans déjà.
Souvenez-vous-en, on a eu comme ça toute une succession.
Non, on a eu Borloo avec l'ANRU.
C'est celui qui a fait le plus de travail.
Désolé, c'est celui qui a le plus travaillé.
Après, il y a du concret. Non, mais après, il y a du concret. Enfin, je veux dire, moi, j'ai participé à Agnières. J'ai participé en tant que cadre de la police pour encadrer la destruction de la barre des Gentianes à Agnières, pour ceux qui ont connu. Je veux dire, et pour moi, c'est par là qu'il faut commencer. Oui. C'est-à-dire avoir des programmes immobiliers qui tiennent la route. Je veux dire, la barre d'immeubles dans laquelle j'ai grandi en 67 à Marseille, elle est toujours là. Elle est toujours là, barre de 15 étages.
C'est provisoire en plus.
Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de...
L'aménagement, ouais.
Il y a pas d'aménagement, enfin du moins pas suffisamment.
L'aménagement urbain, il est pas dans le cadre de la politique de la ville, là-bas bien sûr,
là c'est pas suffisant.
J'aurais posé le truc, c'est que moi j'ai eu l'occasion de discuter.
Est-ce que c'est légitime qu'à Marseille, qui est la deuxième ville de France, qui a un potentiel considérable, on parle de la richesse des quartiers, mais pas que, industriellement parlant, économiquement parlant.
C'est un port en plus.
Il y a du potentiel, c'est l'un des premiers ports, si ce n'est le premier port de Méditerranée. On est encore des cités pourries qui sont invivables. Si on parle de la périphérie, aller dans le centre de Marseille, vous avez la cité Félix Piat, 3e arrondissement de Marseille, c'est le quartier Adil le plus pauvre de France. Ouais. D'accord ? Il ne faut pas aller bien loin. Ce sont les mêmes immeubles. J'ai toujours connu ces immeubles. Ça fait 50 ans qu'ils sont là. 50 ans. Et on propose rien. Ouais. Et on y accumule les populations immigrées de toute génération, parce qu'on a eu des Arabes dans un premier temps, des Blacks ensuite. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens de l'Est, beaucoup de Roms. Et on les met là-dedans, parce qu'on sait pas trop où les foutre. Donc on les met là, et on laisse ces immeubles pourrir et se dégrader. Et quand bien même on les restaure, mais peu importe. On fixe une identité sociale, là. C'est même pas une identité ethnique, mais une identité sociale dans ces endroits-là. Et on s'en lave les mains. Et après, les politiciens se succèdent en disant, ah, c'est pas normal.
Bah, moi, je peux vous
parler d'un. Gamal Abidjan et ensuite Jessica Langer.
Moi, j'ai vécu à Aubervilliers pendant 5 ans. Donc, autant dire dans le trou noir de la France.
Hein, le 9-3.
Oui, mais le trou noir, quand je dis trou noir, c'est la zone, c'est toutes sortes de trafic, c'est une surpopulation, évidemment, presque carcérale, j'allais dire. La problématique qui se pose, c'est que c'est pas parce qu'on met des coups de ripolin dans les quartiers, c'est vrai que la politique de Borloo, il était volontariste. Hein, c'était
absolument.
Un type honnête, réellement un type honnête.
On reconnaît.
Il pensait qu'en détruisant quelques bars et en construisant de nouveaux appartements à visage humain, à taille humaine, 5-6 étages, ça allait changer le problème. La problématique qui se pose, c'est pas ça. Quand on parle d'intégration, moi je parle
ça aide un peu quand même.
Hein. Ça aide pour la décor. Pour le décor.
L'ancienne, accessoirement.
Ah oui, ça aide un cadre de vie.
Non, ça aide pour le décor, mais ça change pas la problématique. Quand un jeune de quartier, j'ai été dans ces quartiers, j'ai vécu la même merde qu'eux, hein, se projette pas dans l'avenir. Moi j'ai eu la chance d'avoir un père entrepreneur. Il considère qu'il est raté et qu'il ne réussira pas. Comment voulez-vous que ce dernier.
L'espoir.
Voilà. La seule truc qui a créé de l'emploi, et c'est là on va en discuter par rapport à Nadia, qui a dit une chose avec laquelle je suis pas d'accord du tout. La création d'emplois artificiels dans les quartiers, elle s'est faite par deux biais. Le premier, c'est les contrats aidés alternants. Donc c'est zéro, ça dure 2 ans. Le second, c'est l'extraordinaire arrivée d'un groupe d'exploiteurs qui s'appelle Uber, qui a donné de l'emploi à tout le monde.
Auto-entrepreneur.
Une des rares choses que Sarkozy ait fait de bien. Et bien, pour dire simplement, c'est de dire que quand on est. Non, c'est une dernière chose qui travaille, qui tient plus les murs. Et ça, je le sais sur le terrain, on le voit très bien. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on arrive avec une psychologie de perdant, qu'on sait qu'en toute façon, on sera toujours mal considéré, pas d'accès au crédit, pas d'accès au logement, pas d'accès à tout ce que vous voulez, comment voulez-vous vous en sortir? C'est pas parce qu'on met de la peinture sur les quartiers, et il fallait le faire, que ça règle la problématique du travail. Le travail est la seule chose qui permet de garantir l'insertion et non pas l'intégration sociale.
Jessica Longuer, rapidement, s'il vous plaît.
Je voulais revenir éventuellement sur un élément que Ménad a mis en lumière, c'est la question du discours. L'identité, c'est les identités. La mixité, les mixités. Et là, c'est important aussi d'en parler parce que de mettre les éléments des mots en singulier, ça crée encore plus de tension sur la conjoncture vis-à-vis des difficultés.
Eh ben, merci. Non, merci infiniment. C'est déjà la fin de l'émission, chers amis. Hein.
Déjà.
Vous savez quoi?
Très intéressant.
Je vous garde pour l'épisode de demain.
Avec plaisir.
Je voulais pas dire.
Parce que demain, on va parler des violences policières et on va parler. Non, mais attendez.
Ah bon,
et puis les quartiers populaires, une solution ou un problème?
Ok. Mais pourquoi des violences?
Eh oui, comment ça?
Parce que les policiers peuvent être violents, vous le savez très bien, monsieur.
Rapport, police, non, voilà, on va être plus bien.
Voilà,
oui, monsieur le commandant de la police.
Mais les mots,
rapport.
Vous êtes violent, JPC.
Si on catégorise dans les choses.
Rapport, police. Rapport. Vous avez raison. Rapport, police, quartier populaire.
Police, population.
Merci, messieurs et madame. Je vous garde et on
Merci
se retrouve demain.
À demain.
Avec plaisir.
Même heure, même rendez-vous, même lieu. Mais surtout, on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
À demain.
Oh, moi, je lâche.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.